tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Science Friction, une émission d'Alain Vatier et de Jean Ibanez sur Divergence FM. Eh bien, bonsoir à vous, bonsoir Alain.
Bonsoir Jean, bonsoir tout le monde.
Alors ce soir, Alain, on va parler, enfin aujourd'hui, on va parler de...
The Handmaid's Tale.
Ah, La Servante Écarlate, une série télé assez belle, il faut le dire. Une série télé féministe engagée.
Oui.
Ah,
une dystopie.
Voilà, une dystopie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une dystopie, Alain?
Eh bien... C'est un, comment je pourrais dire, c'est une utopie négative, tout ça on pourrait dire pour aller vite. Hein.
Une anti-utopie.
Une anti-utopie, une utopie négative, un monde qui dysfonctionne complètement, qui est là en l'occurrence un monde totalitaire, une espèce de théocratie radicale.
Donc il y a à un moment donné aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, mais aux États-Unis entre autres, hein, si je comprends bien... Donc, un changement, un basculement politique, puisqu'il va y avoir un putsch, si l'on peut dire.
Ouais, mais ça, c'est aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Oui. Hein.
Aux États-Unis, il va y avoir un putsch, une prise de pouvoir pour mettre en place une théocratie. Pourquoi, en fait, il y a ce putsch, Alain? Il y a une théocratie qui se met en place parce qu'il y a un danger qui menace l'humanité. Ce danger vient de la pollution, de...
Oui, le monde contaminé,
un
effectivement.
Un monde contaminé qui quoi?
Bah, qui a impacté la fécondité voilà. Des êtres humains. Il y a très peu de femmes maintenant qui arrivent à mettre des enfants au monde. Et c'est un groupe religieux qui s'appelle les Fils de Jacob, qui est une secte politico-religieuse, qui font un coup d'État aux États-Unis, qui renverse le Sénat et la Chambre Blanche, et la Maison Blanche, pardon, et prennent le pouvoir et instaurent donc un pouvoir patriarcal et théocratique.
Oui, et entre autres aussi, c'est encore un moyen de s'approprier les richesses, en quelque sorte, parce que là, ce sont les femmes qui sont fertiles encore.
Mm-hmm. Hein.
Donc on revient toujours à ce schéma dans lequel les puissants vont s'approprier donc, les richesses pour...
Mais là, c'est les puissants hommes.
Ah, les puissants hommes,
puisque,
bien sûr.
Puisque dans ce monde-là, les femmes n'ont pas droit à la propriété des terres, elles n'ont pas accès à l'argent, elles ne peuvent pas travailler... Et elles n'ont pas le droit de lire non plus, ni d'écrire d'ailleurs. Donc elles n'ont pas accès à la connaissance. Et c'est les hommes qui dirigent absolument tout.
Donc on est là, en effet, dans ce monde qui est un monde patriarcal,
oui.
Un monde d'hommes, hein, qui en quelque sorte vont prendre le pouvoir dans tous les domaines.
Oui.
Et ceci parce qu'ils estiment que l'humanité, en tout cas leur humanité, est en danger parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire.
Oui, ils peuvent pas se reproduire. Enfin, si, l'humanité peut se reproduire, mais les femmes... apparemment, je peux imaginer que quand même, dans leur milieu, il y a aussi des femmes fécondes.
Ouais.
Ça serait un peu étonnant qu'il y ait des femmes fécondes que dans les milieux... Ouais. Les classes inférieures ou moyennes, il n'y en aurait pas dans les classes supérieures. Mais effectivement, elles sont trop peu nombreuses, surtout. C'est ça.
Ouais.
Donc du coup, eux, ils s'accaparent toutes les femmes fécondes...
Fertiles.
Pour pouvoir reproduire la caste supérieure. Mais les autres castes, ils s'en foutent, quoi.
Ouais. Oui, et puis en effet, ils ont besoin de faire ce coup d'État, en quelque sorte, pour pouvoir, en quelque sorte, transgresser toutes les lois ou tous les droits comment on pourrait dire, de l'humanité. En fait, ils remettent en cause les fondamentaux de l'humanité, les libertés, la possibilité pour les personnes de décider avec qui elles procréent, etc.
Il y a ça, et puis il n'y a plus de liberté de conscience, il n'y a plus de liberté aussi sexuelle, hein, puisque les homosexuels sont pendus. Les prêtres catholiques aussi, d'ailleurs, hein, parce que ça, il s'agit d'une secte protestante, là. Et on est vraiment dans un monde qui se veut unitaire, qui se veut comme un bloc, où la différence est absolument bannie.
En fait, on a, si on comprend bien en fait cette histoire, parce qu'elle est étrange quand même, hein, on va en reparler. Mais donc c'est un groupe de fanatiques.
Oui. Hein,
un groupe de fanatiques qui a une interprétation, hein, l'église de Jacob,
les fils de Jacob,
qui prennent le pouvoir et éliminent toute possibilité de concurrence et qui à partir de là s'approprient toute possibilité, toute richesse, tout pouvoir, etc. Mm-hmm. Donc ça, c'est en fait un schéma que l'histoire de l'humanité nous a en quelque sorte nous a rendu familier. Mais là, dans le monde actuel, aux États-Unis, dans un monde qui se veut libéral, démocratique, etc., c'est particulièrement surprenant et c'est assez étrange.
Oui, en même temps, on sait que les fondamentalistes chrétiens, protestants, comme les baptistes et quelques autres, sont très extrêmement organisés et ont un pouvoir politique réel. Donc c'est peut-être pas si surprenant, c'est une espèce d'extrapolation de cette espèce de montée en puissance qu'il y a eu des fondamentalistes religieux aux États-Unis depuis sans doute les années 70, où ils ont pris conscience qu'ils avaient un pouvoir politique et qu'ils s'en sont emparés et ils en usent et en abusent.
Alors en fait, c'est tout ce qui est potentiellement en quelque sorte menaçant. Hein, et qui va en quelque sorte se révéler à ce moment-là parce que eux se sentent directement menacés. Il y aurait cette idée.
Il y a ça, et puis l'idée aussi qu'eux, ils portent la vérité. Ils sont le bras armé de Dieu, et ils sont là pour réaliser sa volonté. Il y a aussi cette idée-là. Ce n'est pas simplement qu'ils sont menacés, c'est qu'ils pensent que le monde dans lequel ils vivent est corrompu, est vicié, enfin, qu'il est peuplé, qu'il est habité par le mal, en quelque sorte.
C'est donc, tu l'as dit, une théocratie, hein, c'est-à-dire en fait ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui ont la vérité sur ce qu'il faut croire.
Ce qu'il faut croire.
Et comment aussi interpréter, ici il s'agit de la Bible.
Interpréter les textes. Ouais.
Donc en effet, ici les fanatiques qui menacent le monde, et tout particulièrement le monde soi-disant libre, entre autres des États-Unis, hein, c'est des fondamentalistes protestants, d'accord, chrétiens, qui ont une interprétation de la Bible, et au nom de cette interprétation, ils vont commettre donc des choses qui nous paraissent absolument... ahurissante.
Ah oui, mais effectivement, parce que toute déviance est aussitôt condamnée, est aussitôt punie, et souvent c'est des punitions sévères, ça peut aller jusqu'à la mort, on l'a dit, mais ça peut être aussi des mutilations, comme un œil arraché, un doigt coupé, ou une main, ça peut aller assez loin, quoi. Ils ne font pas de cadeaux.
Non, alors c'est un monde qui est très violent. C'est un monde qui est en effet étrange, inquiétant,
etc. Chacun a sa place.
Où chacun a sa place, et donc on va en quelque sorte découvrir comment ces femmes qui sont prisonnières donc de ce système,
les servantes,
hein, les servantes écarlates, hein, les servantes qui sont habillées en rouge, comment elles vont essayer de survivre dans ce monde-là. Parce que bon, il y en a qui se suicident, etc., etc. Mais comment elles arrivent à survivre, à résister dans ce monde-là? Et ça, c'est un peu tout l'intérêt, en quelque sorte, de la série. Parce que bon, des séries qui nous montrent des systèmes totalitaires, concentrationnaires, etc., etc. On a déjà vu donc des mondes de dystopie. Hein. Mais ici, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment, en fait, puisqu'on va les suivre, hein, comment ces femmes, ces servantes, vont arriver à survivre et à résister et quelque part peut-être aussi à se révolter, à peut-être à s'enfuir de ce système-là.
Oui, effectivement. D'ailleurs, il y en a une qui réussira à s'enfuir. C'est comment elle s'appelle, la copine de Joan Osborne, la Black, là, son amie d'enfance, là, Moira Strand, qui réussira à s'enfuir et à gagner le Canada, où elle retrouvera d'ailleurs le mari de June. Et je pense qu'à partir de là, ils vont eux aussi commencer à organiser une résistance.
Alors, si on se rappelle un petit peu le début de cette première saison, hein, on voit June, en fait, qui va être arrêtée. Elle cherche à s'enfuir, oui, et elle est poursuivie par des soldats avec des chiens. Voilà, hein, et
ça s'appelle les yeux.
Voilà, et les yeux. Hein, et donc, elle essaie de s'enfuir avec sa fille.
Sa fille et son mari.
Voilà. Et ils vont être
rattrapés.
Oui, voilà. Et donc, la fille va être placée dans une famille. Hein, c'est ce qu'on va en tout cas découvrir par la suite. Et elles vont être séparées toutes les deux. Et elle va être placée dans une autre famille, en quelque sorte, pour procréer.
Pour procréer, oui. Au cours des fameuses cérémonies qui ont lieu une fois par mois.
Ouais. Donc, voilà, on est dans cette situation. Sur Divergence FM et vous écoutez l'émission Science Friction. Alors Alain, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
On vient d'entendre un morceau de Jay Richard qui s'appelle Waiting for Something. C'est un morceau qu'on entend dans la série.
D'accord. Oui, en effet, on doit le dire, c'est une série qui est particulièrement belle. Mm-hmm. Il y a vraiment un vrai souci esthétique, des images qui sont d'une grande beauté. C'est aussi d'une grande sensualité, d'une grande sensibilité quand même. Il y a en fait une espèce de contraste entre cet univers.
La dureté du monde.
La dureté du monde qui est imposée à ces femmes et la sensualité très grande, en fait, du traitement cinématographique et des moments, en quelque sorte, où ces femmes arrivent, en quelque sorte, à respirer, à sortir des pièces où elles sont enfermées et, en quelque sorte, à apprécier de manière très, très intense hein, le monde dans toute sa matérialité, dans toute sa sensibilité. On va en reparler, mais il y a des moments de voilà, ça il faut le dire à nos auditeurs, c'est un très très grand plaisir, étonnant d'ailleurs, parce que on est quand même en souffrance avec quand même dans une forme de compassion, d'identification avec ces femmes qui sont maintenues, forcées, qui subissent une violence au quotidien. Et en même temps, en contraste, il va y avoir ces moments d'échappée en quelque sorte, hein, qui vont faire que c'est des moments de respiration qui font du bien, pas seulement aux actrices, mais aussi
aux spectateurs.
Voilà, nous aussi spectateurs. Alors, début du film, hein, si on essaie de voir un petit peu comment c'est fabriqué tout ça, le début du film nous montre donc comment elle est arrêtée,
ouais. Hein,
comment elle est arrêtée, comment petit à petit donc on va l'amener à être une servante.
Mm-hmm.
Hein, mais en même temps, on voit ce qu'il y a dans la tête de June. Hein, la servante écarlate qui est quand même le personnage principal. Mmh. Et il faut dire que on en reparlera, mais cette actrice est absolument remarquable. Mmh. Si voilà, dans les séries, dans les films américains, etc., on est quand même habitué à pas toujours des actrices, hein, plutôt des poupées jolies, etc. Tout d'un coup, là, on a une actrice qui est une femme et qui n'est pas une poupée Barbie. Hein, j'ai rien contre les poupées Barbie, mais bon. N'empêche que là, elle est un personnage étonnant, très authentique, présent. Très présente, avec une très grande force hein, dans le personnage hein, qu'elle incarne. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement positif dans le film, qui est extrêmement... évidemment, je pense que c'est un choix. Et ils ont choisi une actrice et pas n'importe laquelle. Pour incarner ce personnage central, mm-hmm. hein, qui va devoir trouver en elle des ressources, d'accord, pour arriver à survivre. Donc en fait, June, on nous montre en quelque sorte la transformation. Hein, ouais. On nous montre comment elle devient une servante, comment elle finit par accepter cette situation de servante pour survivre, parce que voilà, elle veut
pas
survivre.
Trop le choix,
hein. Oui, elle a pas le choix, mais en même temps aussi, elle veut survivre. Elle le dit. Elle veut survivre pour sa fille. Mm. Parce qu'elle veut retrouver sa fille, elle veut en quelque sorte leur enlever sa fille et la récupérer en quelque sorte pour aussi avec cet espoir de liberté. Et donc il y a cette transformation, cette métamorphose, et il y a des alternances avec des souvenirs mm-hmm. de sa vie avant.
Ouais, flashbacks. Hein, ouais.
Voilà, des flashbacks, et c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent dans la série. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a des alternances entre ce monde totalitaire, où dans lequel il n'y a plus de liberté, dans lequel il n'y a plus la possibilité pour ces femmes de pouvoir décider pour elles. Il n'y a donc, en quelque sorte, que des rapports qui sont complètement artificiels et faussés, hein, puisqu'en quelque sorte, elles doivent jouer un rôle. Mm. Et en quelque sorte aussi, les autres doivent jouer un rôle. Hein. On va en parler. Et donc, il y a un contraste entre ce monde-là et, évidemment, bien sûr, le monde libre, hein, ce monde de liberté qu'elles ont connu auparavant.
Auparavant, ouais.
Ouais. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement présent dans la série, de montrer, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on peut perdre ? En quelque sorte, la dystopie, elle serait là, hein, cette anti-utopie, elle serait là pour nous montrer le danger, la menace, ce qui peut nous arriver. Voilà. Si on laisse le pouvoir à des fanatiques, quels que soient ces fanatiques, hein, parce que on a tendance à parler beaucoup dans l'actualité des fanatiques musulmans de l'islam, mais fanatiques, il y en a de tous les côtés. Il y en a chez les musulmans, chez les juifs, chez les chrétiens, etc. Et aussi chez les incroyants, hein, chez les athées. Mmh. Faut que ça soit très clair. Ici, là, c'est cette secte de protestants chrétiens. On rappelle que les protestants chrétiens ne sont pas forcément, d'accord, des fanatiques, hein, on précise quand même, hein, des fondamentalistes, hein, donc que nos auditeurs soient donc tout à fait
rassurés
par rapport à notre propos, mais il se trouve que, en effet, chez les chrétiens protestants américains, il y a parmi eux, mais c'est vrai chez les catholiques aussi, etc., etc., donc on va pas...
Des fondamentalistes, hein, oui.
Voilà, il y a aussi des fondamentalistes, il y a aussi des gens qui aimeraient bien prendre le pouvoir et imposer aux autres. Donc, un mode de vie et dans lequel, entre autres, les femmes seraient en quelque sorte soumises, des esclaves.
Oui, tout à fait. Hein, oui, c'est le patriarcat, de toute façon, dans la religion, enfin, dans cette forme de religion, de lecture de la religion chrétienne, oui.
Donc, en fait, si on essaie de lire un petit peu ce que nous dit le réalisateur ou les scénaristes, en fait, ce qui est perdu, c'est le monde libéral, c'est les libertés. Mmh. Hein. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que malgré tout, ce contraste entre la très grande violence du Nouveau Monde avec l'Ancien Monde a tendance quoi, à, en quelque sorte, montrer l'Ancien Monde tel qu'il est, comme quelque chose qui est une forme d'idéal. Mmh. Hein, ça reste quand même quelque chose qui est problématique. On en reparlera peut-être par la suite, par rapport à la question politique qui est posée dans le film.
Ouais, c'est sûr que par rapport à cette théocratie, le monde qu'il y avait avant est infiniment enviable, même malgré tous ces dysfonctionnements, malgré toutes ces inégalités et les rapports de force qui peuvent le traverser.
Alors Alain,
oui.
qu'est-ce qu'on écoute là ?
Eh bien, c'est un morceau de Penguin Café Orchestra qui s'appelle Perpetuum Mobile. C'est aussi un morceau qu'on peut entendre dans la série.
Dans la série La Servante Écarlate.
La Servante Écarlate, oui. Hein.
Donc en effet, on est sur Divergence FM, c'est l'émission Science Friction. Et on est en train de parler de cette série, cette magnifique série quand même, il faut le dire, La Servante Écarlate. Et on était en train de parler, Alain, de cette question, la question politique, entre autres, qui est posée dans le film. Mm-hmm. Hein, on verra aussi les limites et puis en quoi peut-être le propos est critiquable. Mais dans un premier temps, en effet, le contraste entre ce monde concentrationnaire, ce monde totalitaire qui est celui de cette secte,
Les fils de Jacob.
Les fils de Jacob. Comment, en fait, le contraste avec cette secte qui a pris le pouvoir, etc., avec l'Ancien Monde, mm-hmm. hein, qu'on redécouvre, qu'on revoit à travers les flashbacks, les souvenirs de June. Mm-hmm. Hein, comment c'était avant, comment elle vivait avant, comment c'était possible de rencontrer
des gens, d'autres personnes. De disposer un peu de son corps, de sa
soi,
vie.
De pouvoir choisir qui on veut, les conflits qu'il pouvait y avoir, les difficultés, etc. En fait, en contraste, l'ancien monde est un monde infiniment désirable.
Par rapport au nouveau, c'est clair.
Par rapport au nouveau.
Puisque justement le conflit est possible et que c'est justement ce qu'on disait, c'est l'essence de la démocratie, c'est que en démocratie, la démocratie c'est le conflit et c'est la possibilité de gérer ces conflits de façon pacifique. Alors que dans le monde construit par les fils de Jacob, tout conflit est absolument impossible, même interdit.
Donc ce qui est important ici, c'est de voir ça, cette idée-là. Cette idée qui est fondamentale, qui est en fait l'idée que développait un philosophe, il faut que je fasse un peu de philosophie là, quand même, moi qui suis prof de philosophie, c'est cette idée que développe Nicolas Machiavel, il explique, Nicolas Machiavel, j'en parlais tout à l'heure à mes élèves, que en fait la paix sociale n'est pas l'absence de conflit. Et ça, c'est très clair. C'est en ce sens que Machiavel est un penseur moderne. Mm. Machiavel dit ceci, la paix sociale n'est pas l'absence de conflits, c'est le résultat d'un rapport de force équilibré. C'est parce qu'il y a des conflits qu'il y a la paix. C'est parce qu'il y a la possibilité de dire non. C'est parce que la femme, à un moment donné, a la possibilité de dire non à son mari ou de dire non à des hommes qu'il y a la paix sociale. C'est parce qu'il y a du conflit, c'est parce que la conflictualité existe et qu'elle est maintenue dans un cadre juridique, d'accord, non criminel,
tout à fait.
Qu'il y a une possibilité
oui, mais c'est ce que
de paix sociale.
C'est ce que les Grecs disaient déjà quand ils parlaient de la stasis, qui était justement le conflit, et pour eux, la stasis est essentielle au fonctionnement de leurs institutions, au fonctionnement de la démocratie.
Oui, c'est-à-dire que la politique, en tant qu'exercice du pouvoir, en fait, elle va investir un espace, l'espace public, dans lequel, en fait, il y a du conflit.
Il y a du conflit.
S'il n'y a pas de conflit, pas d'espace public, et donc pas de politique. C'est autre chose.
Et on est dans le totalitarisme, parce que tout doit être au même niveau. Enfin, il n'y a donc pas de possibilité de confrontation.
Oui, pas de possibilité de confrontation, et aussi, en quelque sorte, pas de possibilité d'exister. Hein, c'est-à-dire que si on est simplement dans des rapports de domination, il n'y a pas la possibilité, en quelque sorte, de pouvoir...
S'affirmer comme sujet.
S'affirmer comme sujet, mais et aussi avoir une possibilité de choix. Hein, il n'y a pas la possibilité pour les individus de choisir, en quelque sorte. Hein, et donc, en fait, on peut organiser des élections, mais elles n'ont pas de sens. Si on organise des élections où il n'y a pas de choix... Comment ces élections ont du sens. Et même au-delà des élections, la possibilité, en fait, pour les hommes, d'exister dans leurs différences. Puisqu'on leur impose, donc, un modèle absolu qu'ils doivent absolument adopter, sinon, en quelque sorte, ils sont éliminés.
C'est ça.
Donc là, on est dans un monde qui est, on pourrait dire, le pire qui puisse exister et dont nous avons fait, les Européens, l'expérience. À travers les systèmes totalitaires, des nazis, des fascistes, etc. Hein? C'est quelque chose qu'en fait, on connaît. Et en fait, quelque chose qui nous menace, ont l'air de dire les scénaristes, ou le scénariste, d'accord, et qui nous menace aujourd'hui encore à travers les théocraties, mais pas seulement.
Non, pas seulement.
Tous les fanatiques.
Une forme de totalitarisme peut être aussi politique, à travers de certaines idéologies... qui se présente comme idéologie politique, justement.
Oui, parce qu'on nous dit aujourd'hui, il y a une crise de la démocratie et il y aurait des hommes qui seraient tentés par le système totalitaire parce qu'il apporterait une sécurité. Mais en fait, c'est...
L'homme providentiel...
Oui, voilà, tout ça, tout ce discours. Mais en fait, il faut rappeler aux personnes qu'un système totalitaire, c'est la plus grande insécurité, puisque règne l'arbitraire le plus grand, comme dans le monde de la servante écarlate.
Tout à fait.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.